Radio Caveland, histoire.
Bonjour, bonjour, welcome to Caveland, bienvenue sur Radio Caveland. Comme vous le savez, à la suite du spectacle La Nuit des Taupes de Philippe Ken, Radio Agora s'installe au théâtre Nanterre-Amandier et se glisse sous terre pour explorer les profondeurs de la ville. Et notre invité ce soir, juste avant la première à Nanterre de La Nuit des Taupes, est archéologue nanterrien, actuellement responsable de la mission archéologique du département de l'Eure. Antide Vian, bonjour.
Bonjour.
Il y a quelques années, entre 2003 et 2013, vous avez piloté des fouilles dans le sous-sol de Nanterre, d'abord pour l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, mais aussi ensuite pour le département des Hauts-de-Seine. Et ce que vous avez découvert à l'époque a beaucoup surpris. Nanterre aurait été la capitale des Parisiens au temps des Gaulois. Comment vous êtes arrivé à cette conclusion ?
Alors, c'est encore une hypothèse, plus qu'une conclusion. Et j'en suis arrivé là grâce à un dossier qui est assez étayé, qui reste encore à fouiller un petit peu, si je peux me permettre. C'est un enchaînement de découvertes qui a commencé en 2003, pour ma part en 2003, j'ai repris la suite de travaux qui avaient été engagés à l'occasion lors des fouilles mises en œuvre lors des travaux de l'A86. Au milieu des années 90, les premières fouilles ont eu lieu à Nanterre, les premières vraies fouilles, il y a eu des découvertes avant, les premières vraies fouilles c'est le milieu des années 90, et là c'est l'époque où les archéologues couraient encore derrière les engins, et on n'avait pas encore tout le temps de faire les choses comme il faut, et des premiers vestiges de grande importance sont apparus. Quand je dis des vestiges, alors il faut imaginer ce que c'est pas des murs, hein. Les Gaulois construisaient leurs maisons en bois et en terre, ils plantaient des poteaux dans le sol, donc il reste des trous comblés de terre, et dans ces trous, pour faire simple, on retrouve des fragments d'objets. Et les fragments d'objets, alors d'une part, ces trous, ces structures archéologiques étaient très nombreuses, sous le tracé de la 86, et dans ces vestiges, on retrouve des fragments d'objets nombreux, mais de grande qualité aussi, qui témoignent d'une occupation assez atypique pour cette période-là. Les fouilles de 2003, elles, ont été mises en œuvre juste à côté. Alors on se situe, pour vous situer, c'est le long du tracé de la 86, dans le quartier de Nanterre-Ville, hein, de l'autre côté de la gare. Les vestiges, à l'époque, en 2003, ont permis de poser l'hypothèse qu'il s'agissait d'une occupation qui était bien au-dessus de ce qu'on imaginait au début, ni une ferme, ni un regroupement de fermes, mais bel et bien une ville gauloise qu'on peut dater entre moins 150 et moins 30 à peu près. Ce sont des dates, c'est des bornes, évidemment, c'est plus ou moins. Mais en gros, c'est milieu du deuxième siècle avant notre ère, et puis en gros, le début du principat d'Auguste.
Et alors, quels sont les indices qui vous indiquent que c'était une capitale, Nanterre ?
Alors, les indices, on les trouve d'une part à Nanterre, et c'est surtout qu'on ne les trouve pas ailleurs.
Ah, par défaut alors.
C'est une réflexion qui se mène à l'échelle d'un territoire. Donc, je vous ai dit, les caractéristiques d'une ville gauloise, c'est une forte densité, c'est une structuration urbaine, c'est une lapalissade, mais il faut quand même l'énoncer. Et puis, c'est l'analyse de la trame des occupations à l'échelle de ce territoire des Parisiens. Et pour cette période, entre moins 150 et moins 30, on ne trouve pas d'occupation équivalente sur ce territoire des Parisiens. Si on revient à Nanterre, on va retrouver une population qui vit au-delà de correctement, hein, une population qui se nourrit d'animaux très jeunes, qui vit avec des ressources assez importantes, qui pratique des artisanats très variés, et parmi ces artisanats, l'un se signale tout particulièrement, c'est l'émission de monnaie. On fabrique la monnaie des Parisiens à Nanterre. Et à ce jour, on n'a pas trouvé d'autres lieux de production pour cette période-là.
D'accord. Donc ça, c'est un vrai signe de pouvoir économique et politique sur Nanterre.
Tout à fait, tout à fait. Les villes, si vous voulez, ce sont des lieux de concentration du pouvoir économique, du pouvoir politique, mais aussi religieux. Et on a un petit peu tout à Nanterre.
Et alors, est-ce qu'on vivait bien à l'époque à Nanterre, d'après ce qu'on a trouvé ? Est-ce que vous avez trouvé comme dans les fouilles ?
Alors, au moins une partie de la population vivait bien, ça, très certainement, puisqu'on consommait à l'occasion en grande quantité du vin et de la viande. Alors, le vin, on ne le retrouve pas naturellement, on retrouve les emballages perdus que sont les amphores, et ce vin, à l'époque, il vient de Campanie, il vient d'Italie, et il est consommé sur place, on le filtre, et on va retrouver donc la vaisselle pour le boire, des gobelets en céramique, mais également les filtres qui ont permis d'en évacuer toutes les épices qu'on mettait pour le stabiliser et l'aromatiser.
Et pour la viande, comment vous avez retrouvé mention de banquet ?
Alors, évidemment, pas la viande, mais les os des animaux. En gros, environ 43 000 ossements animaux ont été découverts lors des fouilles.
43 000, c'est énorme.
43 000, c'est énorme. Alors, ce n'est pas 43 000 animaux. Hein.
Oui.
Pour vous donner un ordre d'idée, ça représente 148 bœufs, 228 moutons, 176 porcs. Mais on retrouve aussi des chevaux en moindre quantité. On retrouve quelques chiens, 22 chiens. Et puis, plus anecdotique, une tortue et un chat.
On mangeait des chiens à l'époque ?
Oui, on en mangeait. Alors, tous les Gaulois, tous les peuples gaulois n'en consommaient pas. On a des zones, effectivement, où on mange du cheval, et puis d'autres, on n'en mange pas. Chez les Parisiens, on en consomme.
Et du chien aussi.
Et du chien aussi, naturellement.
Et du chat.
Et du chat, mais moins, vous voyez, un seul chat.
Est-ce que vous savez combien il y avait d'habitants à l'époque à Nanterre, dans cette Nanterre qui était la capitale des Parisiens ?
Et non, et la réponse est dans votre question, parce que vous me dites à l'époque, et entre moins 150 et moins 30, vous voyez qu'il se passe bien des choses, et la taille de cette agglomération, elle évolue, elle se développe, elle atteint son apogée au début du 1er siècle avant notre ère, hein, vers moins 100 en gros, vers moins 100, moins 80, c'est le moment de l'expansion maximale de cette agglomération, et puis après ça va décliner petit à petit. Alors c'est pas, pour revenir un petit peu là-dessus, c'est pas la guerre des Gaules, c'est pas la bataille de Lutèce, c'est pas moins 52 qui marque le déclin de Nanterre, pas du tout, puisqu'on a même l'implantation de nouvelles structures artisanales au lendemain de la guerre des Gaules. C'est au début du Principat d'Auguste, hein, vraiment que ça décline. Alors je reviens un petit peu sur la consommation, la prospérité de cette population. Donc je vous disais des animaux qui sont consommés en grande quantité, mais des animaux qui sont élevés sur place et qui sont jeunes. Alors élevés sur place, pas dans la ville. Hein. Une ville gauloise, quand on parle par exemple, alors le thème de César c'est Oppidum, quand on parle de ville gauloise, il y a toute la partie urbanisée, les maisons, les rues, tous ces quartiers d'occupation artisanale et résidentielle, et puis tout autour on a évidemment des champs cultivés, des pâturages, et il faut imaginer une occupation assez étendue. On a fouillé à ce jour 1,5 hectare de Nanterre. L'occupation, en fonction de la répartition des zones fouillées, on l'évalue à 15-20 hectares. Ramené à la surface, ça paraît gros.
Oui, ça paraît énorme même.
Il y a des villes gauloises encore plus grandes, si on prend toute la limite de la ville. Hein. Pour remettre ça à l'échelle de la superficie de Nanterre, c'est 1219 hectares.
Donc, mais vous voyez pas en réseau urbain très dense avec toute la...
La commune de Nanterre, c'est 1200, actuellement, c'est 1219 hectares. Donc vous voyez, à l'époque gauloise, 15-20 hectares, ça reste assez raisonnable. Et on a fouillé qu'un hectare 5. Il reste encore des choses à faire.
Ça, c'est sûr. Et donc cette ville ancienne de Nanterre, elle était située où exactement à l'époque de...
Alors, on en situe...
Des Parisiens.
Ouais, on en situe certains quartiers, je vous l'ai dit, sous le tracé de la 86 au niveau du RER Nanterre-Ville. Ça, c'est à l'heure actuelle le centre de gravité de cette occupation. Mmh. C'est là où on a la plus forte densité de vestiges. Mais c'est aussi là où on a le plus fouillé. On retrouve des vestiges dans le centre ancien de Nanterre. On a réalisé des fouilles, passage du Quignon notamment. Des découvertes ont été effectuées rue du Docteur Foucault. Vous voyez, là, on est vraiment dans le centre ancien de Nanterre. Donc on sait que cette agglomération de Gauloise, elle venait aussi jusque sous le bourg ancien, qui est le bourg médiéval d'ailleurs.
Et ce bourg était irrigué par la Seine, sur laquelle, à l'époque, il y avait du commerce
Tout à fait. Alors, irrigué, pas directement, on n'est pas loin de la Seine, hein, de toute façon, hein, Nanterre est bordé par la Seine. Mais vous avez raison, je vous ai parlé de la partie urbanisée de cette agglomération. On a également des berges aménagées. C'est les travaux autoroutiers, hein, vous l'aurez compris, qui ont lancé les premières grandes découvertes. La 86 pour la partie résidentielle et artisanale, et puis la 14 au niveau de la rue Gutenberg, donc le bord de la Seine. Et là, on retrouve des berges aménagées, au moins de l'époque gauloise, et puis ça perdure un petit peu à l'époque romaine.
Est-ce que, donc ce soir, c'est la première à Nanterre de la Nuit des Taupes. Est-ce que les taupes ont joué un rôle dans les déplacements des vestiges que vous avez pu rencontrer lors des fouilles ?
Alors, je dois avouer être un avocat des taupes, parce qu'on les a injustement accusés de plein de méfaits.
C'est vrai.
Les archéologues cherchent toujours des explications rationnelles. Et lorsque l'on trouve, par exemple, lorsqu'on fouille une tombe, et lorsqu'on trouve des objets déplacés, des petits objets naturellement, on a tôt fait d'accuser les animaux fouisseurs et principalement les taupes. Bon. Et puis, lors des fouilles de 2003, lorsque j'ai découvert cette nécropole gauloise, donc ce sont des Gaulois qui ont été enterrés entre 300 et 250 avant notre ère, hein, pour faire simple, on retrouvait dans les tombes quelques objets, des petits objets, des fibules, donc ce sont les agrafes qui permettaient de fermer les vêtements, qui avaient été déplacés, cassés, et puis déplacés, on les retrouvait de temps en temps au pied des individus, mais les morceaux étaient séparés. En examinant cela avec attention, on s'aperçoit d'une part qu'il n'y a pas de galerie de taupe, et puis d'autre part on retrouve les fragments d'un même objet d'une tombe à l'autre. Et là, alors d'une part on innocente les taupes.
Oui, ça ne peut pas être les taupes qui vont de tombe en tombe.
C'est pas elles. Mais on met ça au compte maintenant de manipulations rituelles des Gaulois qu'on connaît encore très mal à ce jour, mais ce sont ces témoignages qui permettent de mieux les comprendre.
Ça signifie qu'en fait ils réouvraient les tombes pour enlever...
Tout à fait.
Pour enlever des bijoux
Voilà. Alors, enlever des bijoux, détruire symboliquement des armes. On a des épées qui ont été ployées. C'est-à-dire qu'on va plier une épée qui est déjà un petit peu rouillée après qu'elle se soit dégradée dans le sol, peut-être pour la neutraliser symboliquement. Et puis, alors on connaît très mal les liens familiaux, hein, on n'a pas fait de tests ADN sur les individus, mais on retrouve dans des tombes d'enfants des demi-objets dont on va retrouver l'autre partie dans des tombes d'adultes. Pour rentrer un petit peu plus dans ce genre de relation assez particulière au sein de ce cimetière gaulois, on avait sur une trentaine d'individus inhumés, 5 porteurs d'épées. Alors, je ne dis pas des guerriers, hein, ce sont des gens qui portaient des épées. Vous voyez, les académiciens ont des épées, on ne les considère pas comme des guerriers. Pour les Gaulois, c'est peut-être un petit peu la même chose. Ces individus porteurs d'épées sont tous associés à une tombe d'enfants. Donc ce sont des guerriers qui sont morts à 55-60 ans, hein, c'est ce que nous disent les travaux des anthropologues, et qui sont associés à des tombes d'enfants qui sont morts entre 18 et 5 ans. On ne connaît absolument pas les relations qui les unissent.
D'accord, c'est un des mystères qui reste à découvrir.
Ah tout à fait, tout à fait. Mais c'est un gisement archéologique extrêmement riche, Nanterre, et notamment pour étudier les rituels gaulois.
Vous avez dit que vous aviez découvert des nécropoles, donc je crois que vous en avez découvert 3 de diverses époques différentes.
La première, j'étais très jeune parce que c'était 1899.
Ah oui. On en a découvert 3 à Nanterre.
Tout à fait.
Comment on tombe en fait, là encore, c'est à l'occasion de travaux qu'on tombe sur des sépultures comme ça?
Alors 1899, ce sont des travaux, on se situe dans le quartier de l'hôpital Max Forestier. Ce sont des travaux d'extraction de sable. C'est une sablière, des ouvriers trouvent des objets et les ramassent. On n'a pas affaire à des fouilles archéologiques, ce sont des objets qui sont actuellement visibles au musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye. Bon. Première découverte de grande importance à Nanterre. La seconde découverte d'ensemble funéraire, c'était 2003, celle que je viens d'évoquer. Et puis en 2009, c'est une découverte qu'on appelle fortuite, un petit peu comme en 1899. Ce sont des travaux sur des réseaux d'eau, un tuyau d'eau qui fuyait sous l'avenue Lénine, devant une station-service. Rien à voir avec la station-service, c'est juste pour le localiser. Et là, la police est appelée, s'agissant d'ossements humains. On imagine tout de suite qu'on a affaire à un crime. Je suis appelé par les policiers qui rapidement se doutent que les vestiges sont un peu plus anciens que ce qu'ils ont l'habitude de rencontrer en général. Et puis effectivement, on a affaire à des restes humains qui sont associés à des ossements animaux, des dents de vache, des ossements de porc, de mouton, et puis des petits fragments de vaisselle cassée. Et cette vaisselle cassée disait déjà que c'était plutôt gaulois. On a fait procéder à des analyses au radiocarbone qui nous ont confirmé qu'on avait affaire à des individus qui sont morts dans la première moitié du deuxième siècle avant notre ère. Donc là, en gros, on se situe juste entre le cimetière, la datation du cimetière, et puis le début de la ville gauloise.
Alors tous ces vestiges que vous retrouvez à l'occasion des fouilles, donc quelques-uns les plus anciens sont exposés au musée de Saint-Germain-en-Laye, et les autres vestiges, par exemple les ossements, est-ce qu'on peut les voir?
Alors pour l'instant ils ne sont pas du tout présentés au public, ils l'ont été en 2008 lors d'une grande exposition organisée par la mairie de Nanterre en collaboration avec le département des Hauts-de-Seine. Pour l'instant ils sont en réserve. Alors pour les montrer, on travaille sur des publications, il y a déjà eu un catalogue d'exposition, on travaille actuellement à la publication du cimetière gaulois, qui est un ensemble de références.
Pour revenir à Nanterre, capitale des Parisiens.
Oui.
Donc quand vous avez émis cette hypothèse, qui reste encore au conditionnel, mais un conditionnel auquel vous tenez quand même, quelle a été la réaction des historiens qui indiquaient plutôt Lutèce, enfin la capitale, à la place de Lutèce?
Les réactions sont très partagées. À vrai dire, c'est pas une thèse à laquelle je tiens plus qu'une autre. Il se trouve que celle-ci est vraisemblable et qu'elle est assez classique à l'échelle de la Gaule. On aurait affaire, si l'on regarde les chronologies respectives des différents sites, à un déplacement de site de Nanterre vers Paris, comme on en connaît très souvent en Gaule. Serait rien de surprenant. Le plus surprenant serait que Paris ait toujours été à la même place. Ça, ce serait vraiment étonnant.
Mais du coup, est-ce qu'on sait expliquer le changement de Nanterre à Paris ?
C'est un changement qui se produit sous Auguste, qui est assez fréquent, et on va déplacer les centres économiques, les centres de pouvoir, et là, on remonte le cours de la Seine, on s'installe en amont de Nanterre, peut-être pour contrôler davantage les échanges et puis maîtriser ces flux importants. La Seine, c'est un axe de circulation majeur. Nanterre était installé, enfin est toujours installé d'ailleurs, mais dès l'époque gauloise, était dans un méandre fluvial. La Seine, à l'époque, c'est un fleuve qui a tendance à divaguer un petit peu. Les berges ne sont pas stabilisées, c'est marécageux, et on a le Mont Valérien qui vient fermer ce méandre au sud. Donc vous voyez, c'est un emplacement assez stratégique. Lorsqu'on veut réorganiser l'occupation du territoire, et puis bien maîtriser son administration, les centres politiques, on va se mettre plutôt dans des endroits qu'on maîtrise davantage. Et d'ailleurs, les premiers vestiges les plus anciens à Paris ne sont pas sur une île, mais ils sont bien sur la terre ferme.
D'accord, c'est une vraie volonté de reprendre en main politiquement...
Tout à fait, tout à fait.
Le pouvoir.
Mais on revient s'installer à Nanterre après une période de déprise de cette occupation sous Auguste. On a un renouveau de cette occupation à partir de Tibère.
C'est-à-dire ?
Tibère, c'est à partir de 14 de notre ère. Auguste, c'est moins 27 à plus 14.
D'accord. Donc à partir de 14 de notre ère, Nanterre redevient un centre important.
On n'est pas à l'année près, mais ouais. Je vous dis, c'est pour vous donner une époque, c'est à partir du règne de Tibère qu'on a un renouveau de cette occupation. Alors, on n'a plus affaire à la même catégorie d'agglomération. Pendant ce temps-là, Paris, Lutèce s'est développé, et là, il n'y a aucun doute là-dessus, aucune forme d'ambiguïté. Nanterre, c'est pas non plus une ferme à l'époque de Tibère. On a probablement affaire à une petite agglomération dite secondaire. On la connaît encore très mal, puisqu'on a peu fouillé les vestiges qui relèvent de cette période-là. En revanche, on a des témoignages indirects. Et ces témoignages indirects, on les trouve dans un cimetière d'époque mérovingienne. Alors là, on est début des Moyen-Âge. Ouais. On enterre les gens dans des sarcophages en pierre. Alors, soit on travaille sur des blocs de pierre directement extraits des carrières, soit... lorsqu'on a de la matière première à disposition, on va réemployer certains éléments. Et on retrouve dans le cimetière mérovingien, dans la nécropole mérovingienne de Nanterre, qu'au niveau de la cathédrale, devant le parvis de la cathédrale, on retrouve des sépultures taillées dans des blocs d'architecture antique. A priori, ils viennent de pas très loin, ils viennent de monuments publics. Donc on aurait, vous voyez, c'est un témoignage très indirect, mais on aurait bien la trace de monuments publics, donc plutôt d'une agglomération à Nanterre à l'époque antique.
Comme quoi tous les indices sont importants et permettent de reconstruire...
Chaque indice est important et on n'est pas à l'abri de nouvelles découvertes, puisque avant les années 90, on ne soupçonnait pas la présence d'une agglomération gauloise à Nanterre.
Est-ce qu'il est prévu de faire des fouilles systématiques pour en savoir un petit peu plus ? Sur le passé de la ville ?
Alors, c'est pas qu'il soit prévu que ce soit systématique, c'est qu'en fait, il y a une loi qui s'applique dans certains cas. Nanterre, c'est une ville qui est assez surveillée du point de vue de l'archéologie. Donc, on a tout un processus de transmission des documents, des autorisations d'urbanisme, les permis de construire, ce genre de choses. Et dans le centre-ville, par exemple, c'est étroitement surveillé. Il faut imaginer que les vestiges sont par endroits très bien conservés et puis que dans d'autres secteurs, ils ont déjà été détruits. Ils sont pas très profonds. On est à peu près, selon les secteurs, à entre 1 et 2 mètres de profondeur sous le niveau actuel. Il suffit d'une cave, d'un niveau de sous-sol, et les vestiges ont déjà été détruits.
Mais il y a des fouilles en ce moment aux papeteries de la Seine, sur le site.
Alors, ce n'est pas encore des fouilles, c'est un diagnostic, c'est-à-dire qu'on procède à des sondages préalables pour vérifier la présence de vestiges. D'accord. Et si des vestiges sont découverts, à ce moment-là, l'État décidera peut-être de mettre en place une intervention complémentaire, et là, on parlera de fouilles.
Donc, on peut espérer découvrir plein d'autres choses sur le passé de la ville.
Les archéologues l'espèrent, les gens qui conduisent les projets d'aménagement, de temps en temps, un petit peu moins, mais l'archéologie est de manière générale assez bien rentrée dans les mœurs de l'aménagement.
Heureusement. Pour conclure, est-ce que la ville, au Moyen-Âge, elle a pu reprendre un petit peu de son faste passé, ou ça a été vraiment un lent déclin ?
Ah non, 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 il n'y a pas d'éclat. Il y a eu une interruption. Il y a eu quand même une petite période de crise à la fin de l'époque gauloise, ça c'est certain, mm-hmm. on l'a évoqué sous Auguste. Après, on a affaire à un développement assez classique, avec quelques petits points d'orgue. On a quand même des personnages emblématiques comme Sainte-Geneviève, mm-hmm. avec toute la mythologie, bien évidemment, qui va avec. Mais les vestiges archéologiques, là encore, parlent d'eux-mêmes. Et j'évoquais tout à l'heure, pour parler de l'architecture antique, les sarcophages mérovingiens, on a, dans les environs proches de la cathédrale de Nanterre, un énorme cimetière mérovingien qui est révélé à chaque fois que des travaux ont lieu dans ce secteur-là. Qui dit cimetière dit évidemment occupation, et on a sous la place du marché, l'avenue Foch, si je dis pas de bêtises, on a fait des fouilles dans les années 90 encore qui ont livré des vestiges d'habitat mérovingien et carolingien. Alors là on est début du Moyen-Âge. Et puis la ville se nourrit d'elle-même, se reconstruit sur elle-même, donc évidemment une partie des vestiges n'existe plus.
Bien sûr.
Mais le cimetière mérovingien, lui, outre les sarcophages, a livré aussi des objets tout à fait intéressants.
Par exemple
des armes, des parures, comment dire, je cherche un petit peu s'il y a eu... Parce que ce sont des découvertes anciennes qui ont commencé en 1883.
Ah oui, c'est ancien.
Là encore, c'est assez ancien. Et les dernières fouilles ont eu lieu en 2007.
D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup d'être venu nous parler des sous-sols de Nanterre et de leurs trésors archéologiques, puisqu'il y en a beaucoup.
Beaucoup. Il en reste encore beaucoup.
Alors donc, si on fait des travaux dans son jardin et qu'on trouve des vestiges, à qui il faut s'adresser ?
Alors le mieux, c'est de ne pas faire des travaux susceptibles d'affecter les vestiges. Mais sinon, bien évidemment, il faut prévenir alors soit la mairie, soit la préfecture.
D'accord. Et là, c'est pris en main par...
Là, c'est pris en main. Mais c'est rare, quand même. Je vous disais, il faut faire un trou de 2 mètres de profondeur dans son jardin. Bon, normalement, on ne le fait pas tous les jours.
C'est pas si fréquent. Alors, pour ceux qui voudraient en savoir plus, eh bien, je vous conseille de contacter la Société d'Histoire de Nanterre.
Tout à fait. Une société qui est très dynamique et que je remercie au passage, je tiens à le faire, parce que c'est grâce à la Société d'Histoire aussi que les dossiers ont été surveillés. Elle a toujours été un relais très efficace. Elle était toujours très vigilante à la préservation de son patrimoine et à sa valorisation.
Ok. Donc, merci à la Société d'Histoire.
Merci à la Société d'Histoire.
Vous pouvez consulter son site internet histoire-nanterre.org. Voilà, mais je vous souhaite une bonne soirée à tous, bon spectacle à tous les spectateurs qui sont en train d'arriver pour assister à la première nanterrienne de la Nuit des Taupes, à laquelle on ira assister nous aussi.
Bien sûr, avec plaisir.
On se retrouve dès demain dimanche sur Radio Kevland avec de nouvelles promenades dans le sous-sol nanterrien, et en particulier, on ira explorer les égouts de la ville à partir de 14h. Et vous pouvez bien sûr nous réécouter en podcast sur www.radioagora-nanterre.fr. Commentez et partagez les émissions. À bientôt.
Vous êtes sur Radio Kevland.